Allô, Madame Chérini ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Marine Hilario, à l'appareil du CIDJ.
Oui.
Je vous dérange pas du
vous
coup ?
Vous allez bien dans ces circonstances difficiles ?
Bah écoutez, oui, on fait avec, hein, c'est assez particulier, mais...
Voilà.
On se laisse pas abattre. Et vous-même, ça va ?
Oui, bah, même chose. Hein, voilà.
D'accord.
On fait avec. On apprend à faire différemment.
Voilà, c'est ça. Du coup, juste pour un petit peu recontextualiser ma demande, voilà, l'idée pour moi, c'est d'écrire un article en fait sur les youtubeurs mineurs de manière assez générale et donc la législation qui va avec. Donc, il va s'agir pour moi d'en savoir un peu plus sur les règles qui s'appliquent, alors notamment en droit du travail, mais aussi du coup pour tout ce qui concerne les données personnelles des mineurs sur Internet. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je cherche à joindre, en fait, notamment des professeurs de droit, parce que, du coup, je cherche à en savoir vraiment un peu plus, et en tout cas, à ne pas faire d'erreur sur la réglementation qui s'applique en France. Et voilà. Et donc, en gros, c'est un article qui sera pour notre site internet, donc cidj.com, et qui s'adresse aux jeunes, en fait, de 15 à 25 ans. Donc, l'idée, c'est de rendre un petit peu accessible aussi cette info, qui n'est pas toujours évidente à comprendre.
Et non, absolument.
Voilà, donc en gros c'est un peu le ce qui va nous intéresser un peu aujourd'hui là. Et alors juste là pour revoir avec vous, donc vous êtes maître de conférence à la fac de droit de Poitiers, c'est ça ?
Voilà, je suis maître de conférence à la faculté de droit de Poitiers.
Mmh.
Et c'est vrai que je m'intéresse à la protection des mineurs dans un environnement numérique.
D'accord.
Donc, j'ai eu l'occasion là, d'écrire deux articles sur ce sujet qui sont déjà un peu dépassés parce qu'on est vite dépassé. Hein,
oui.
Parce que ce sont des nouvelles technologies. Mais en 2016, j'avais écrit dans le cadre d'un colloque un article sur le mineur connecté.
D'accord.
Le mineur connecté à Internet. Donc là, ça visait à la fois le mineur... qui est acteur de sa communication sur Internet hein, et puis aussi qui peut être victime de la communication sur Internet.
Hein. Oui.
Et puis, parce que donc, le mineur peut lui-même avoir des agissements illicites sur Internet,
sûr.
Notamment sur les réseaux sociaux. Donc, mm-hmm. il faut qu'il ait conscience voilà, qu'il y a des règles qui s'appliquent même... dans cet univers virtuel.
Oui.
Et que, en particulier, la communication sur les réseaux sociaux, lorsque c'est, comme le cas le plus courant, lorsque le mineur s'adresse à un gros groupe d'amis, voire d'amis, il est soumis en fait aux règles du droit de la presse, hein, aux règles qui s'appliquent aux journalistes.
D'accord.
Donc, voilà, c'est savoir aussi que le mineur donc, est directeur de publication, par exemple lorsqu'il a un compte Facebook.
D'accord.
Et donc il est aussi responsable des messages qui sont postés par ses amis.
D'accord.
Ouais. Ça, les gens n'en ont pas toujours conscience. Mais en fait, si des messages sont postés sur son compte, il sera considéré comme un directeur de publication et ses amis seront considérés comme les complices de celui qui détient le compte.
D'accord, parce qu'en fait, on a la possibilité, quand quelqu'un écrit sur notre mur, par exemple, de valider ou non la publication de ce message.
Voilà.
Oui.
L'idée, en fait, c'est que le droit cherche plus un responsable qu'un coupable.
Oui.
Et donc, alors pour l'instant, ça ne s'est pas encore appliqué, si vous voulez, à des mineurs.
Oui.
Autrement que sous forme de travaux d'intérêt général.
D'accord, hein. D'accord.
Mais j'ai le souvenir d'une affaire dans laquelle. Des mineurs avaient créé un compte qui était intitulé Castron Toto et voilà, qui se moquait d'un autre mineur handicapé. Et donc, on a considéré que les mineurs étaient responsables hein, et qu'ils c'est effectuer des travaux d'intérêt général.
D'accord, ok.
Voilà, il y a cet aspect, le mineur peut être un acteur hein, de d'actes illicites sur Internet, et puis il y a l'aspect, évidemment, le mineur peut être victime de comportements illicites, et on songe en particulier là au cyber-harcèlement. Hein.
Oui.
Donc là aussi, il y a pas mal de dispositions dans les textes.
Censées en tout cas protéger quand on en est victime.
Voilà, absolument.
D'accord.
Qui vont permettre en particulier de considérer que quand le harcèlement concerne un mineur, c'est une circonstance aggravante de l'infraction.
D'accord.
Qu'il s'agisse d'un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, un harcèlement numérique.
Mm-hmm.
Et puis, on a aussi des dispositions, alors là, ça s'applique à la fois aux mineurs qui sont acteurs et aux mineurs qui sont victimes. Qui concerne tout ce qu'on appelle le harcèlement en meute,
oui.
C'est-à-dire l'idée que une seule personne, même si elle a envoyé un seul message, à partir du moment où il y a une meute de personnes qui en harcèlent une autre, eh bien, elles ont contribué à ce harcèlement et donc elles sont coupables de harcèlement en meute,
oui,
même si elles n'ont posté qu'un message.
Oui, oui. Ok. Donc ça, c'est ce qui s'applique aujourd'hui de manière assez générale sur le numérique, sur Internet, qu'on soit mineur
c'est
ou pas.
C'est ça, hein. Oui.
D'accord.
Qu'on soit mineur ou majeur, simplement lorsque les victimes sont des mineurs, les circonstances de l'infraction seront considérées comme étant des circonstances aggravantes.
Oui, d'accord. Ok. Ok. Et alors, quand on est sur une...
Et puis, on a aussi donc une autre disposition qui a été récemment introduite par le législateur qui est intéressante.
Oui.
Et on l'a vu, on en a entendu parler dans le cas de Benjamin Griveaux.
D'accord.
Mais elle concerne souvent les mineurs. C'est ce qu'on appelle la revanche pornographique.
Oui.
C'est-à-dire des mineurs qui sont... consentant pour se filmer dans des activités sexuelles ou pour poster un petit sexto à leur compagnon, à leur compagne, et puis qui ne sont évidemment pas consentants pour que ces images ou ces vidéos soient ensuite diffusées au public.
Oui, c'est ça.
Et donc voilà, là on a maintenant une nouvelle incrimination parce que... il y a encore quelques années, on considérait qu'à partir du moment où les personnes avaient été consentantes pour se filmer, elles étaient consentantes pour la diffusion.
Ah oui, d'accord, ok. Et donc ça date, ça date de quand, ça, cette disposition, du coup, de 2020 ou de 2019
Alors, je vais vous dire ça. Non, c'est un peu moins récent.
D'accord.
Revanche pornographique, je me demande si c'est pas la loi pour une république numérique, je regarde. Hein.
D'accord, merci beaucoup.
Depuis 2016, c'est ça, c'est la loi pour une république numérique.
D'accord, ok. Ok. Et alors, excusez-moi, s'il y a des petits blancs, c'est parce que je note en même temps hein, ce que vous m'expliquez.
Bien sûr, oui, je comprends bien que vous avez besoin d'assimiler l'information.
Et alors là, du coup, quand on est plus donc, du côté des ce qu'on appelle alors les plateformes de partage de vidéos, donc on pense principalement à YouTube, mais effectivement, ça peut être aussi un peu plus les réseaux sociaux qui permettent aussi ce partage-là.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut peut-être commencer, je ne sais pas, par peut-être les dispositions qui s'appliquent concernant les données, pour commencer peut-être, et je ne sais pas si on pourra voir après un petit peu ce qui s'applique en termes de droit du travail, puisqu'il y a une proposition de loi qui est en train d'être
oui, débattue, effectivement.
Voilà.
Enfin, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Voilà, c'est
donc
ça.
Donc, c'est la première étape. Hein.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, là, en ce qui concerne les données, c'est vrai que quand j'ai commencé un petit peu mes réflexions sur ce sujet, j'ai vu et lu beaucoup de choses et j'avais l'impression que, enfin, j'entendais beaucoup parler de la loi COPPA, donc je suis allée un petit peu aussi chercher ce que c'était. Et je me suis donc rendu compte que c'était une loi américaine et c'est vrai que je me suis posé la question, en fait, pourquoi on parle de cette loi? Est-ce que vraiment cette loi s'applique en France? C'est vrai que c'est assez compliqué parce que comme YouTube est une entreprise, on va dire, américaine, on se demande si du coup elle répond au droit français, au droit américain. Enfin, c'est un peu compliqué, je trouve. Et donc, je voulais savoir, en fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que clairement la loi COPPA s'applique ou pas, ou comment ça se passe, en fait?
Alors, on a une réponse beaucoup plus simple que la loi COPPA.
D'accord.
C'est la réponse par l'application du RGPD.
D'accord.
Du règlement général sur la protection des données personnelles.
Oui.
Qui s'applique à tout citoyen européen.
Oui.
Peu importe le lieu où l'entreprise est implantée.
D'accord.
Hein? Donc elle protège, le RGPD protège tous les mineurs européens.
Oui.
Et il y a des dispositions donc qui sont spécifiques justement à la protection des données personnelles des mineurs.
Oui.
Et en France, on considère qu'un mineur ne peut ouvrir ne peut consentir à la collecte de ses données personnelles qu'à partir de 15 ans.
Oui, c'est ce qu'on appelle la majorité numérique, c'est ça?
C'est ça.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle la majorité numérique.
D'accord, d'accord. Et donc, avant 15 ans, il a besoin de l'autorisation de ses parents, finalement, pour...
C'est ça.
D'accord.
Hein? Absolument. Pour créer un compte de réseaux sociaux, pour jouer à un jeu qui implique la collecte de données personnelles, il a besoin de l'autorisation de ses parents.
Et en fait, comment ça se passe concrètement pour donner une autorisation parentale? C'est en fait les parents qui doivent cliquer sur un onglet pour dire « j'autorise mon enfant », c'est quelque chose de manuscrit, c'est quelque chose d'un peu officiel. Enfin, comment ça se passe concrètement, vous le savez?
Alors, je dirais que pour l'instant, en ce qui concerne la collecte des données, on est sur une phase de transition, donc de mise en place des dispositions.
D'accord.
Chacun fait comme il peut et selon la bonne volonté des acteurs. Hein.
Oui, c'est d'accord. Pas, d'accord.
Pas, voilà.
Ouais.
Par contre, il y a une disposition qui s'applique aussi tout de suite
aux
mineurs et qui là est vraiment très très intéressante.
Oui.
Justement, si les opérateurs ne respectent pas les règles du jeu, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli.
Oui.
C'est-à-dire que tous les mineurs ont le droit de revenir sur la décision qu'ils ont pu donner à un moment de collecter leurs données et faire valoir leur droit à l'oubli.
D'accord. Et alors, ce que je me demande dans ce droit à l'oubli, c'est est-ce qu'il faut forcément que les données qui sont en cause portent un préjudice aux mineurs ou pas forcément?
Non, pas forcément.
Ah, d'accord.
Ce qu'on appelle effectivement souvent le droit à l'oubli, c'est souvent ce qu'on désigne par le droit au déréférencement, par exemple, sur les moteurs de recherche. Hein, on va pouvoir demander à partir du moment où il y a la photo d'un mineur, à partir du moment où il y a des propos qui concernent un mineur, de déréférencer tous les liens hypertextes qui mènent à ces publications.
Oui.
Ça, c'est effectivement une partie droit à l'oubli, mais le droit à l'oubli, c'est aussi le droit de purger, en fait, toutes les données personnelles qu'on a pu communiquer quand on était mineur.
D'accord.
Et en fait, c'est lié à un autre droit dont nous disposions déjà avec la loi informatique et liberté, mais dont nous disposons encore plus, enfin, toujours avec le RGPD, de manière encore plus forte, c'est-à-dire la possibilité de demander à des opérateurs quelles sont les données personnelles qu'ils ont collectées sur nous.
D'accord, donc on peut avoir conscience des données que les opérateurs ont sur nous, on peut leur demander de les effacer.
Voilà.
D'accord.
On peut par exemple demander à Facebook la communication des données personnelles que Facebook détient sur nous.
Okay.
C'est ce qui a fait le plus gros procès procès contre Facebook devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un étudiant autrichien qui a demandé, comme il en avait le droit déjà, hein, même avant le RGPD, à ce que Facebook lui communique toutes les données personnelles que Facebook conservait, parce qu'il avait raté son compte Facebook, mais Facebook conservait quand même énormément de données personnelles. Et donc, une fois qu'il a eu le CD-ROM, il a imprimé ça, ça fait des pages. Donc, il a attaqué pour justement contester hein, cette mauvaise application des règles en matière de données personnelles.
D'accord. Et alors ça, on peut tout à fait le faire quand on est mineur et de manière complètement individuelle. On n'a pas besoin d'être accompagné ou en tout cas que nos parents soient d'accord avec nous pour faire... D'accord.
Non. Hein, ça, le mineur peut le faire tout seul. Et maintenant, il y a une fonction sur Facebook qui permet de demander directement à Facebook d'avoir communication de toutes les données personnelles que Facebook détient sur nous.
D'accord, ok. Et vous savez si c'est beaucoup demandé ? Est-ce qu'on sait
non.
si...
Non, franchement, je pense que non.
Ouais, d'accord. Parce que vous pensez qu'il y a une méconnaissance de cette possibilité ou juste parce que les mineurs, en général, les jeunes, de manière un peu globale, n'ont pas vraiment conscience de ce que représentent les données sur Internet ?
Je pense les deux.
D'accord.
Hein, les deux. Et c'est pour ça que je pense que les actions de sensibilisation, moi je suis enseignante, donc j'ai toujours fort la pédagogie.
Oui.
Je pense que les actions de formation sont vraiment intéressantes. Par exemple, là, je forme mes étudiants dans le cadre de ce qu'on appelle des autres pratiques pédagogiques.
Oui.
Je les forme pour qu'ils interviennent dans les lycées et les collèges pour sensibiliser les mineurs à leurs pratiques numériques.
Oui, d'accord.
C'est un bon exercice à la fois pour les étudiants, parce que ça leur permet de se mettre en situation de prise de parole au public. Et puis, je crois aussi à la vertu de permettre que l'information soit délivrée par des personnes encore très jeunes. Donc, les distances sont moins importantes et les jeunes sont peut-être plus convaincus lorsque le discours est aussi tenu par des jeunes.
Mais oui, de pair à pair, ça marche assez bien. Ouais. Ok. Et donc là, clairement, ce qu'on peut dire, c'est que donc en France, ce qui s'applique, on va dire, peut-être pas en numéro 1, mais en tout cas, le RGPD est là. Il y a également des législations françaises, donc vous me disiez la loi sur informatique et liberté, c'est ça, qui s'applique aussi.
C'est ça, hein.
Voilà.
La loi informatique et liberté, en fait, elle a adapté le RGPD.
Ah, d'accord.
Elle était déjà très en avance sur le RGPD, mais voilà, par exemple, sur... le droit à l'oubli des mineurs, on a retenu une seuil de 15 ans.
D'accord, oui. Et donc, par rapport au cas qui va plutôt m'intéresser dans mon article, ce droit à l'oubli, en fait, il va permettre, par exemple, aux enfants qui, à la fois, sont acteurs de leur chaîne, que ces chaînes-là soient tenues d'ailleurs par leurs parents ou pas, de revenir dessus, c'est-à-dire de demander, par exemple, la suppression des vidéos, par exemple, quand ils avaient 8 ans, s'ils avaient décidé de faire... ils ont participé à une chaîne, par exemple, ou même 10 ans ou 12 ans, ils vont pouvoir demander, par exemple, la suppression de ces vidéos. Mais ça, est-ce que ça concerne aussi les mineurs que l'on voit sur des vidéos, un peu indépendamment de leur volonté, c'est-à-dire lorsque les parents sont, eux, acteurs de leur chaîne et qui, dans le cadre de leur quotidien, par exemple, vont filmer leurs enfants. Ces mineurs-là vont aussi pouvoir demander...
Oui, parce que c'est vraiment un droit qui est reconnu aux mineurs et pas aux parents des mineurs.
D'accord.
Effectivement, si des personnes ensuite, même si elles sont toujours mineures, mais si elles n'ont plus envie d'être ainsi surexposées, à partir du moment où elles étaient mineures et que leur image a été exploitée, parce qu'elle a été... qu'elle a été diffusée, ils peuvent faire valoir effectivement leur droit à l'oubli.
Voilà, donc en fait, du moment qu'ils étaient mineurs au moment des faits, on va dire, peu importe qu'ils le soient encore ou qu'ils soient devenus majeurs, ils peuvent de toute façon faire jouer ce droit à l'oubli, en fait.
C'est ça.
Ok, ouais, d'accord, ok. Et donc du coup, la loi COPPA, finalement, parce que bon, elle est quand même notée sur YouTube, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait du contenu sur YouTube, on a cette mention, est-ce que votre contenu concerne des mineurs? Alors là, j'ai l'impression que c'est aussi un peu protéger, non pas les acteurs qui font les chaînes, par exemple, mais plutôt ceux qui les regardent et qui seraient également mineurs. Et dont le contenu pourrait être, alors d'après ce que j'ai pu comprendre, il faut éviter le contenu sponsorisé par des marques. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi une chasse à la publicité un peu déguisée qu'on offre et qui sont très présentes sur les chaînes pour enfants.
Il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a deux lois COPPA.
D'accord.
Il y en a une qui est COPPA avec deux P et l'autre qui est COPPA avec un seul P.
D'accord.
Donc, il y en a une qui concerne l'exposition des mineurs en termes de contenu illicite.
Mm-hmm. Hein. D'accord.
Et l'autre qui concerne la protection des données personnelles.
D'accord. Ok.
Et ensuite, évidemment, les grands opérateurs américains mettent d'abord en avant la loi COPPA. Mais ils sont tenus par les prescriptions du RGPD.
Mmh. Hein? Oui, d'accord. Ok. Et alors là, si on peut passer peut-être du côté de la proposition de loi, au final, là, ce qui a voulu être réglementé, c'est plutôt les potentielle relation de travail qui peut exister entre un mineur et ses parents, ou peut-être même pas ses parents, mais en tout cas, dans le cadre d'une chaîne qui fonctionne bien, qui génère des revenus, etc., j'ai l'impression qu'on a enfin voulu un peu légiférer sur les situations de ces enfants qui ne sont pas, enfin, qui n'appartiennent pas au régime des mineurs du spectacle, mais qui en même temps, quelque part, fournissent a priori une prestation de travail.
Oui, tout à fait. Hein.
D'accord.
Vous avez bien compris, il s'agit d'abord de réglementer l'exploitation commerciale de l'image des mineurs. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ceux qui travaillent donc sur ces plateformes comme influenceurs, qui sont utilisés par leurs parents influenceurs, ne bénéficient pas pour l'instant du régime protecteur des enfants du spectacle ou du régime protecteur aussi de la publicité, l'utilisation de l'enfant dans la publicité.
D'accord.
Donc là, l'idée, effectivement, c'est d'abord de prévoir que l'exploitation commerciale qui pourra être faite de leurs prestations profitera aux mineurs, c'est-à-dire sera consignée à la caisse
des dépôts et consignations. D'accord.
Voilà, pour que les enfants puissent être les
bénéficiaires. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il en est du coup de ces mineurs qui, eux, ne... Enfin, c'est un peu, pour certaines chaînes de blog familial, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il n'y a pas vraiment de prestations de travail. Souvent, c'est des enfants qui sont très très jeunes, ils sont parfois bébés même, donc ils ont pas, il n'y a pas de consignes, ils ne respectent pas des règles particulières. Mais toujours est-il qu'ils sont exposés et que c'est aussi souvent grâce à leur image que les parents arrivent à faire vivre leur chaîne. Hein. C'est malheureux, mais c'est beaucoup comme ça.
Oui.
Et alors, du coup, pour ces mineurs-là, il n'y a pas de relation de travail finalement.
Alors, il n'y a pas de relation de travail au sens où on entend en droit du travail. Peut-être que ça peut d'ailleurs être discuté, parce que
d'accord.
Le critère de la relation de travail, c'est la subordination
d'accord.
hiérarchique.
D'accord.
Moi, ça ne me choquerait pas de considérer qu'un enfant qui travaille pour ses parents, il est en subordination hiérarchique.
D'accord.
Qui va sans doute beaucoup jouer dans les décrets d'application, en particulier si le texte est voté, c'est le temps que d'exposition du mineur. Les vidéos sont régulières parce qu'il faut compter, réaliser que le temps d'exposition du mineur, il est évidemment en deçà du temps que entrepreneur a passé, puisqu'il y a eu des prises qui ont été supprimées.
Exactement, oui.
Voilà, une mobilisation beaucoup plus importante. Et puis, on prendra vraisemblablement aussi en compte les revenus que ça génère.
De ce que j'ai compris, ce sont deux conditions qui ne sont pas complémentaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'un et l'autre, ce sera ou l'un ou l'autre, ou les deux, finalement.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Tout à fait.
Ok. Oui, ok. Et donc, vous, clairement, vous en pensez quoi, vous, de cette réglementation? Vous pensez qu'elle est utile? Vous pensez que, finalement, on aurait pu simplement, peut-être, adapter le droit déjà existant, qui est quand même déjà assez protecteur, plutôt que de faire une nouvelle loi? Vous pensez que c'est... On est obligé, en fait, de légiférer une nouvelle fois sur quelque chose? On ne peut pas simplement adapter le droit existant?
Alors, je dirais que, en général, je ne suis pas favorable aux interventions législatives.
D'accord.
Je trouve que voilà, on tombe dans un travers qui devient beaucoup plus déstabilisant pour le juriste qu'il n'est rassurant.
D'accord.
Mais en ce qui concerne ce cas particulier, je trouve l'intervention judicieuse.
D'accord.
En particulier parce qu'elle va quand même obliger prévoir la consignation des sommes.
Oui.
Voilà. Hein, donc ça, je pense que sans une réglementation impérative, on ne serait pas parvenu à prévoir que la majeure partie des revenus doit revenir finalement à l'enfant, à sa majorité. Ça, je pense que c'est quand même... Après, peut-être que effectivement la jurisprudence aurait pu appliquer les règles de droit du travail en considérant que c'est quand même un lien de subordination hiérarchique. L'avantage de l'intervention du législateur, c'est que ça évite le débat lors du contentieux.
Oui, d'accord. Oui.
Les choses sont claires depuis le départ.
C'est ça.
Donc c'est quand même, je pense... une mesure plus efficace là que de ne rien faire.
Oui, d'accord. Et c'est vrai que, enfin, même moi, je me suis un peu posé la question parce qu'on voit qu'il y a plutôt un gros consensus politique. Bon, c'est clairement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de votes un peu défavorables sur cette législation.
Oui.
On est un peu, enfin, moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi une manière de pas de se redorer le blason, mais de dire, bah voilà, moi, j'ai, enfin, politiquement, nous, on a légiféré là-dessus, alors que en fait,
enfin, franchement, ça mange pas de pain.
Ouais, d'accord.
Ça marche pas de ça. Il y a tellement peu de projets qui peuvent être transpartisans que celui-là, je pense que bon, ça
autant qu'il soit mené, quoi.
Par les libertariens, je dirais que il est facile de faire consensus sur ce point. C'est pas un gros risque politique. Hein.
C'est pour ça. Mais on a l'impression... Enfin, du coup, je me suis posé la question, est-ce que vraiment on a affaire à des personnalités politiques qui veulent légiférer ça, ou est-ce que c'est juste un moyen de faire consensus, quoi, et de... parce que finalement...
Je pense que l'un et l'autre, hein, franchement, je pense que les analyses peuvent être multifactorielles. Hein. Je pense que... Oui, c'est à la fois une manière de se redorer le blason, comme vous le dites, hein, et puis en même temps, vraiment, là, je pense que ce n'est pas inutile de le faire.
Oui, d'accord, oui. Oui, oui, quitte à légiférer sur quelque chose, autant que ça soit quelque chose d'utile, et là, pour le coup, a priori, ça l'est, quoi.
Voilà.
Ok. Et d'après vous...
Après, bon, je ne sais pas dans quelle mesure... par exemple, les dispositions, on va demander aux plateformes de participer activement à la détection des
contenus
problématiques et tout.
Bon, c'est ça que j'allais vous demander, en fait.
C'est beaucoup plus délicat.
C'est ça.
On tombe toujours sur des questions qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont dans quelle mesure des algorithmes peuvent être juges.
Oui.
Voilà, des contenus, de la licéité de contenus. Donc ça, je suis beaucoup plus réservée sur ce point-là. Par contre, sur l'aspect, je dirais, vraiment, d'exploitation sociale, hein,
oui.
De l'image de mineur, ça je pense que c'est important, parce que l'exploitation médiatique de l'image des mineurs, il me semble que le RGPD, la loi informatique, permettait hein, aux mineurs de faire valoir leurs droits plus tard.
Oui.
Par contre, voilà, que les parents dépensent généreusement l'argent ça suffit. Bien pouvoir freiner ça.
Oui, complètement. Et vous pensez que cette loi, elle va quand même assez loin parce que on se dit, bon, bah là, aujourd'hui, on a l'impression de réglementer donc sur ce qu'on appelle les plateformes de partage de vidéos. Très bien, c'est quand même assez large. C'est vrai que ce n'est pas que YouTube, c'est aussi sûrement les réseaux sociaux autour qui permettent la diffusion de vidéos. Mais au-delà de ça, est-ce que ça va assez loin dans le sens, aujourd'hui, ça passe par la vidéo, demain, ça passera peut-être par un autre moyen de communication. Est-ce que finalement, il n'y aura pas besoin dans quelques années de revenir sur le sujet quoi et de prévoir, enfin j'imagine que c'est compliqué.
Ah mais ça c'est très possible hein. Moi je m'intéresse au droit des nouvelles technologies et je suis ravie parce que les choses bougent hein. Et quelquefois je me dis j'aurais mieux fait faire de l'histoire du droit, je serais plus tranquille hein. Donc voilà c'est un peu effectivement la course poursuite. Tous les supports peuvent peut-être pas être envisagés.
Et oui. C'est compliqué pour le législateur d'être en avance finalement sur son temps, enfin quelque part.
Absolument.
Ouais. Oui. Oui, d'accord.
Oui. On a toujours un temps de réaction, qu'il s'agisse du législateur, parce qu'il ne veut pas freiner les nouvelles innovations technologiques, ou qu'il s'agisse du judiciaire, parce que le temps du contentieux, c'est un temps qui n'est pas un temps réactif. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a la loi et puis il y aura son application effective, en fait, qui va aussi faire bouger un peu les choses et qui vont... Oui. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que peut-être vous verriez quelque chose, j'aurais peut-être pas pensé à vous demander, un aspect particulier sur le sujet ou quelque chose d'important à rappeler, peut-être, je sais pas. Finalement, est-ce que c'est plutôt aussi rappeler aux parents qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qu'ils font et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi eux-mêmes non plus sur Internet et encore moins avec leurs enfants? Ou est-ce que c'est aussi de dire aux enfants attention parce que vos parents n'ont pas tous les droits en fait? Parce que c'est vrai, c'est compliqué quand on est mineur, je pense, pas de se rebeller contre ses parents, mais d'avoir conscience que ses parents ont des agissements problématiques en fait. C'est vrai que c'est des notions qui sont quand même compliquées, j'imagine, pour un enfant à intégrer. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas.
Je pense qu'en ce qui concerne l'exploitation commerciale hein, des enfants, on est sur, effectivement, des mécanismes qui appellent aussi, qui appellent une réflexion en termes de psychologie, hein, le narcissisme des parents par rapport à leurs enfants, enfin bon, il y a sûrement plein de choses à développer de ce côté-là. Moi, je dirais que en ce moment, ce qui me préoccupe plus, ce sont les problèmes de harcèlement, vraiment.
D'accord.
Parce que là, je pense qu'on est sur des choses qui se passent vraiment à grande échelle, hein, qui peuvent être extrêmement violentes. Hein. On l'a vu pour la jeune fille Mila là, qui avait tenu ses propos sur blasphématoire, mais qui ne sont pas illicites d'un point de vue juridique. Hein. Mm-hmm. On a dit que l'islam c'était ta mère, ce que déjà Michel Houellebecq, c'est pas Michel, mais Houellebecq avait déjà dit. Je dirais, oui, tout le monde, les problèmes de harcèlement me soucient davantage parce que là, il concerne beaucoup plus de personnes.
Oui.
Et parce qu'il concerne potentiellement les mineurs dans leurs deux facettes. Ils peuvent être acteurs de ce harcèlement sans forcément en avoir vraiment conscience. Et ils peuvent très vite se retrouver victimes de ce harcèlement.
Oui.
Voilà, ça me paraît vraiment important.
Oui, de rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur Internet, quoi.
Voilà.
Et que, ouais.
Voilà. Ouais.
Ok. Eh ben, écoutez, super. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et puis,
si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à...
Super. Voilà. Ouais, ce sera parfait. Et ben, écoutez, je vous souhaite de bonne continuation. Et
oui, moi aussi, bon confinement.
Merci beaucoup. Et puis voilà, je reviendrai vers vous au besoin de toute façon.
Très bien.
Super, merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.